Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le vendredi 13 juillet 2018. Si vous lisez cette chronique régulièrement, ce qui est absolument indispensable, vous aurez compris qu'en ce moment, le comportement des bourses mondiales est piloté par deux choses, Trump et la guerre économique, tout en sachant que l'un ne va pas sans l'autre. Mercredi, nous étions donc au bord de la panique, en train de courir dans tous les sens, tels des poulets qui venaient d'être décapités, et hier, tout allait pour le mieux, parce que l'on s'autorisait à penser dans les milieux autorisés que les Américains et les Chinois étaient ouverts à reprendre les discussions sur les taxes douanières. Comme quoi, il en faut peu pour être heureux. Donc voilà, pas besoin de vous faire un dessin, le fait de parler au conditionnel, de recommencer à discuter et d'envisager éventuellement peut-être, c'est même pas sûr, de régler une fois pour toutes ce problème de guerre économique, et les marchés ont fait un 180 degrés sur route et sont repartis comme des boulets à la hausse. Le Nasdaq termine même au plus haut de tous les temps. Il faut dire que Goldman Sachs a bien aidé en déclarant que guerre ou pas guerre, il fallait être investi dans les poids lourds de la tech, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google et Microsoft. Inutile de vous dire ce qui montait le plus que le reste hier. Le S&P 500 est de retour à 2800, ou presque, pour sa Xème tentative de cassure à la hausse, et le Dow Jones est moins mal en point que la veille, puisque les titres que l'on ne voulait plus à cause de la guerre économique, eh ben, on les a rachetés, parce que s'il n'y a plus guerre économique, on les veut bien quand même. Pendant ce temps, l'Europe faisait pareil en suivant le mouvement, malgré que Trump fait son tour d'Europe, justement, en agressant à peu près chaque dirigeant européen dans chaque pays où il passe, surtout si c'est une femme. Après avoir critiqué Merkel pour être un suppôt de la Russie, voici qu'il se fait Theresa May en estimant que si elle travaille pour un soft Brexit, cela remettrait en cause les accords commerciaux avec les USA. Comme si elle n'avait pas assez de problèmes en ce moment. Mais peu importe, du côté marché, ça roule plutôt bien à nouveau, comme un jour sur deux. Il n'est pas possible que lundi, je vous refasse une chronique déprimée en fonction de ce que Trump aura déclaré ce week-end. En attendant, on ne retiendra que le fait que les négociations sur les taxes douanières pourraient recommencer, et l'on peut donc déjà extrapoler et envisager la signature d'un accord de paix définitif. Soyons fous! Notons encore au passage que Powell a parlé hier et qu'il a dit qu'une guerre économique, justement, encore elle, pourrait clairement mal se finir. C'est intéressant, mais hier, les intervenants étaient clairement concentrés sur le fait que l'on pourrait négocier à nouveau. À partir de là, Los Angeles et San Francisco auraient pu disparaître dans la faille de Sant Andrea, ça n'aurait pas fait plus réagir le marché. En conclusion, le Nasdaq est au plus haut de tous les temps et le S&P est au bord de la cassure haussière qui mettrait les shorts à genoux et qui empaillerait les ours pour quelques jours. Reste à voir si Trump peut garder le silence sur la trade war pendant 5 jours, le temps qu'il faudra au S&P pour casser à la hausse. Le pétrole est toujours sous pression. Ce matin, il est autour des 70 $. Les raisons sont les mêmes qu'hier. Libye, Trump, production en Arabie et production en Russie. L'or est devenu purement décoratif et le Bitcoin est à 6 250 $. Et pour le moment, tout le monde s'en tape. En tout cas, il me semble. Pour le reste, ce matin, le Japon explose parce que le yen se casse la gueule. Le Nikkei est en hausse de 2% et le dollar yen est à 112,60. Hong Kong remonte légèrement et la Chine ne fait rien. La Chine qui attend la publication de son trade balance et la reprise des négociations avec Washington, bien sûr, comme nous tous. Actuellement, les futurs sont en hausse de 0,3% et la fin de semaine semble bien se présenter. On n'aurait pas parié là-dessus mercredi matin. Dans les nouvelles du jour, c'est assez simple. Soit on parle de Trump qui est en Angleterre et qui s'efforce de dire une connerie à chaque fois qu'il ouvre la bouche. La dernière en date étant qu'il pense que Boris Johnson ferait un super Premier ministre. Tu m'étonnes, c'est un peu le même profil quand même. Ou alors on parle des éventuelles futures négociations avec la Chine, ou alors on parle de Trump pour l'argent russe qui est derrière un de ses immeubles à New York, ou de Trump parce qu'il veut repeindre Air Force One en quelque chose de plus patriotique. On a déjà peur du relooking. Ou encore Trump parce qu'il embarrasse le parti républicain avec ses commentaires surtout un peu partout dans le monde. Bref, si Trump n'était pas là, je ne sais pas ce que l'on ferait. De l'investissement fondamental peut-être. En tous les cas, la transition est toute trouvée parce qu'aujourd'hui c'est plus ou moins le lancement officiel de la saison des résultats puisque l'on va commencer à avoir du lourd. Cet après-midi, nous aurons Citigroup, JP Morgan et Wells Fargo qui vont donner le ton avant que ça commence vraiment à chauffer la semaine prochaine et les semaines suivantes d'ailleurs. Il est clair que si Trump revient avec un tweet comme quoi il va taxer 1 trillion de biens chinois dès le 1er août, ça nous ferait une belle jambe de savoir que Google a battu les attentes et que Netflix a 4 abonnés de plus que prévu. Mais en attendant, on va enfin pouvoir parler, peut-être, d'autre chose que du président américain et des taxes sur la Chine et sur l'Europe. On peut rêver. Pour ce qui est des chiffres économiques, nous aurons le PPI en Suisse qui va sûrement nous changer la vie. En Europe, les ministres des Finances européens vont se rencontrer et aux USA, il y a les prix à l'importation et l'exportation et le Michigan Consumer Confidence qui devrait nous permettre de savoir si l'Américain moyen compte acheter un congélateur cet été ou encore si l'achat est repoussé en 2024. Nous voici donc à la fin de la semaine. Pendant 2 jours, il n'y aura pas besoin de se connecter sur Twitter. On va pouvoir penser à autre chose pendant 48 heures parce que les marchés seront fermés. Je dois dire que je suis chaque semaine un peu plus effaré par notre capacité à ne voir qu'une seule chose sur ce marché, Trump et tout ce qui tourne autour. On arrive presque à rêver qu'il ne soit plus là pour que l'on puisse parler d'autre chose. D'ailleurs, pour parler d'autre chose, le 11 juillet, il y a eu les Euromoney Awards for Excellence, une soirée où les banques européennes peuvent se donner des grandes claques dans le dos en se disant combien ils sont trop forts, trop beaux et trop intelligents surtout. Le Crédit Suisse semble sortir grand vainqueur puisque apparemment ils sont les meilleurs dans à peu près partout. Leur CEO est nommé banquier de l'année, malgré les amendes et les casseroles de la banque qui ont elles-mêmes des casseroles. Le reste des awards est encore plus impressionnant. Le numéro 2 de la banque en Suisse, qui devrait d'ailleurs bientôt être numéro 1 à ce rythme-là, a ramassé les awards de meilleure banque suisse, meilleure banque de gestion de fortune en Europe de l'Ouest, meilleure banque de gestion de fortune en Europe centrale et de l'Est, meilleure banque de gestion de fortune au Moyen-Orient, meilleure banque de gestion de fortune en Amérique latine, meilleure banque d'investissement en Suisse, en Asie, pour les marchés émergents, en Indonésie, Thaïlande, Vietnam et Pakistan. Impressionnant, n'est-il pas ? On comprend mieux pourquoi Trump et Kim Jong-un pourraient être nommés pour le prix Nobel de la paix. Mais il faut tout de même savoir que le Crédit Suisse n'a quand même pas tout gagné. Goldman Sachs a reçu l'award de la meilleure banque d'advisory. La banque française avec le logo vert a reçu celui de la gestion sustainable. Bank of America est la meilleure banque du monde. Et Citi est la meilleure banque d'investissement du monde. En tous les cas, ils sont tous magnifiques. Ah, il est vraiment bien loin le temps des subprimes où les banques faisaient tout ce qu'il fallait pour se cacher. Il faut tout de même reconnaître qu'un peu d'auto-congratulation, ça fait jamais de mal à personne. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un très bon week-end. Moi, je vais aller m'attribuer 1 ou 2 awards pour rester modeste et je vous retrouve lundi après un très très bon week-end.